Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat et vous pouvez ainsi nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission. Nous sommes mardi 11 juin 2019, nous diffusons en direct mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association april.org, vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec un certain nombre de références que nous allons citer pendant l'émission et évidemment la page sera mise à jour après l'émission. N'hésitez pas également à utiliser le formulaire de contact ou le webchat pour nous faire des retours sur ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors maintenant, le programme de l'émission. Nous allons commencer par la présentation d'un nouveau documentaire sur le logiciel libre intitulé LOL, logiciel libre, une histoire sérieuse. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur OpenStreetMap, projet de cartographie qui a pour but de constituer une base de données géographique libre du monde, permettant par exemple de créer des cartes sous licence libre. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Pépite Libre de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, qui portera sur les films libres de la fondation Blender. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors, on va vous proposer un petit quiz, comme depuis quelques émissions. Donc, je voudrais les réponses en fin d'émission ou en cours d'émission. Vous pouvez proposer des réponses soit sur le salon web de la radio, soit via les réseaux sociaux. Alors, première question. Lors de l'émission de la semaine dernière, le 4 juin, notre sujet principal portait sur Framasoft. D'où vient le nom Framasoft? Je poserai aussi la question aux invités pour voir s'ils s'y connaissent. Deuxième question. En lien avec l'émission d'aujourd'hui, quel site web utiliseriez-vous pour trouver ou boire votre bière préférée autour de vous? Boire évidemment avec modération. Alors tout de suite, place au premier sujet. Nous allons commencer par la présentation d'un nouveau documentaire sur le logiciel libre intitulé LOL, logiciel libre, une histoire sérieuse, non une affaire sérieuse, excuse-moi, avec François Zahedi, réalisateur. Bonjour François.
Bonjour Frédéric.
Alors, c'est un nouveau documentaire, on a fait récemment une émission sur un autre documentaire qui est passé sur Arte. Alors, première question, comment en tant que réalisateur ou l'équipe qui a produit ce documentaire, tu es venu à t'intéresser à ce monde du logiciel? Parce que tu es informaticien à la base?
Absolument pas. Je revendique complètement ne rien y connaître, ni en développement, ni en logiciel libre. Moi, je suis réalisateur, j'aime bien raconter des histoires, c'est mon métier. Et effectivement, quand on recherche des sujets, on est venu à me parler de cette problématique du logiciel libre. Et c'est mon acolyte Thierry Bayou et sa femme Léa Deneville sont mes auteurs qui m'ont présenté ce sujet, le logiciel libre, en tant qu'objet audiovisuel pour un documentaire. Et alors moi, j'étais plutôt à l'aise avec l'informatique, hein, parce que ça va avec mon métier, les ordinateurs depuis tout petit. Mais je connaissais le logiciel libre, hein, je connaissais l'open source, mais c'était un peu des mots. Je connaissais la différence avec les logiciels propriétaires. Mais finalement, ce n'était pas une problématique en soi qui me paraissait dingue. Mais ça m'intéressait quand même. Et on a gratté un petit peu le sujet. Et à force de regarder, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une problématique de société. Il y avait quelque chose qui allait bien au-delà de la technique, de l'informatique, et que finalement, même les gens qui n'utilisent pas l'informatique ou qui pensent ne pas utiliser l'informatique peuvent socialement être concernés par cette problématique-là. Et donc, ils ont démarché tout un tas de personnes pour voir qui voulait bien intervenir et nous parler un petit peu de cette notion de logiciel. Je tiens à préciser que nous, sur la gestion, sur la conception du documentaire au départ, on n'était pas forcément arrêté sur le logiciel libre. On connaissait, moi personnellement, en tant que réalisateur et producteur, hein, je ne connaissais pas forcément les tenants, les aboutissants de tout ça, mais la question m'intéressait. Parce qu'elle était digne d'intérêt. C'est un petit peu un truisme que je viens de faire, mais vous l'apprécierez. On a donc eu des intervenants, hein, divers et variés.
Des intervenants informaticiens, des intervenants du champ politique. Quel type d'intervenants vous avez interviewé?
Écoutez,
et combien?
On a tapé à pas mal de portes. Il y en a beaucoup qui sont restés fermés, notamment les tenants du logiciel propriétaire, finalement, qui n'ont pas souhaité venir. On a été très bien accueillis par la plupart de ce qu'on peut appeler le champ des tenants du logiciel libre, voire open source. Et du coup, nous avons interviewé un petit peu moins de 20 intervenants. 14 restent finalement dans le documentaire. Ce n'est pas juste un documentaire. Il y a des parties d'originalité. Moi, je viens de la fiction. J'aime bien raconter des histoires. Et on s'est permis quelques petites originalités. Par exemple, il n'y a pas de voix off sur ce documentaire. C'est une suite de ce que vont nous dire ces intervenants.
C'est une suite des interviews des personnes qui ont été interviewées.
Donc. Tout à fait. On construit une narration D'accord. grâce au montage sur 7 points précis, particuliers. Au départ, c'est plutôt construit sur qu'est-ce que l'informatique. C'est plutôt une vulgarisation, finalement, de l'informatique et du logiciel. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Il y a quoi dedans? Et ensuite, très très vite, avec certains intervenants, on s'est rendu compte, et je pense que Thierry Bayou et Léa Denneville le savaient bien avant moi, qu'on allait rentrer sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus social, politique et géopolitique.
Donc en fait, Thierry et Léa s'attendaient à cette présentation un petit peu plus politique, mais finalement pas toi.
Je le soupçonne, oui.
C'était la découverte en tant que personne, finalement.
Faut dire que Léa et Thierry ont travaillé sur le documentaire bien avant que moi j'y arrive. Eux ont développé et ont écrit.
D'accord.
Au départ, ce logiciel. Et après, ils m'ont présenté le projet pour que je le du coup, mette en image, réalise, le tourne. Et c'est devenu une espèce de... Gigoet Film, ma société, qui produit le documentaire, est une toute petite structure. On n'a aucune connaissance avec les diffuseurs. C'est vraiment une autoproduction. On est complètement indépendant, pour le coup. Et ça, c'est un objet audiovisuel un petit peu particulier, hein. Je ne veux pas dire que c'est formidablement original, mais il y a une tournure assez particulière, donc dans le fait qu'il n'y a pas de voix off, dans le fait qu'on a utilisé aussi beaucoup de vieux films pour mettre en parallèle les problématiques d'aujourd'hui. Des vieux films de cinéma.
Ah d'accord, ok.
Oui, qui peuvent... ce sont des illustrations assez allégoriques, mais qui finalement nous montrent, au fur et à mesure du documentaire, que ces problématiques-là, qui paraissent extrêmement modernes parce qu'elles sont numériques et que finalement le numérique n'est pas si lointain par rapport à nos constructions sociétales, mais finalement, ces problématiques-là se retrouvent dans un temps qui est beaucoup plus long, finalement. On a retrouvé, on s'en étonnait, mais des films de plus d'un siècle qui finalement illustrent très très bien des problématiques numériques actuelles. C'est rigolo, et on les a utilisées.
D'accord. Alors ce documentaire, il dure combien de temps?
C'est un documentaire qui, à l'heure actuelle, fait 57 minutes.
57 minutes. Alors je précise que moi je n'ai pas vu ce documentaire parce qu'il y a une réservation de la surprise. Où est-ce qu'on va pouvoir le voir et à partir de quand?
Le documentaire fait son avant-première privée le 20 juin prochain au cinéma CGR. Privé, ça veut dire qu'à l'heure actuelle...
Alors CGR, c'est dans le Paris 20e.
Exactement, oui, c'est Porte des Lilas, pardon.
Porte des Lilas, voilà.
J'insiste sur le mot privé parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore le visa d'exploitation. Et l'avant-première nous permet de réserver la première pour, par exemple, un festival de telle ou telle qualité. L'avant-première, ça va nous permettre de présenter le film à un certain nombre de personnes. Ça va nous permettre d'avoir un certain nombre de retours. Il n'est pas exclu qu'on puisse faire un certain nombre de modifications. C'est peu probable, mais pourquoi pas. On est toujours ouvert à ça. Et puis également, c'est une manière de montrer ce travail-là pour éventuellement intéresser un distributeur ou un diffuseur.
D'accord. Alors, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées pour assister à cette avant-première, comment concrètement elles doivent faire?
Le mieux, c'est de nous contacter, de m'envoyer un mail à, par exemple, l'adresse première@gigowattfilm.com, gigowattfilm.com, c'est au singulier, première@gigowattfilm.com. Vous m'envoyez un petit mot et on peut vous trouver encore une place ou deux sur la liste. Il reste encore un certain nombre de places, donc si vous êtes intéressé par le documentaire, c'est avec plaisir qu'on vous recevra.
Alors, on mettra l'adresse courriel sur le site de l'April en référence, donc n'hésitez pas à envoyer un courriel donc à François pour vous inscrire. Alors, le titre, une petite explication sur le titre, donc LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse. LOL, bon, bah, c'est un acronyme que la plupart des gens connaissent, qui veut dire bon, le rire, l'amusement. Donc, pourquoi le choix de ce titre?
Ce qui nous a intéressé là-dedans, donc c'est par exemple c'est les auteurs qui sont venus avec ça. Ça, c'est quelque chose qui a été dès le début, donc ce documentaire, on le travaille depuis 3 ans et demi, voire même un petit peu plus. Le premier tour de manivelle, on l'a fait en janvier 2016, rendez-vous compte, ça fait 3 ans et demi. C'est quelque chose qui est resté, ce titre. Et donc LOL, effectivement, c'est l'émoticône, hein, le smiley qui rigole. Et pour moi, ça symbolisait l'utilisation que la plupart des gens ont du numérique. Quelque chose d'assez simple, d'assez facile. un téléphone, un smartphone, un Facebook, j'envoie une photo, donc des utilisations finalement assez légères. Et on s'est rendu compte, et on veut dire d'ailleurs dans ce documentaire, que nos utilisations informatiques sont finalement très très sérieuses, parce qu'elles impactent nos vies personnelles dans des manières avec lesquelles même moi j'ai été surpris, qu'elles impactent également aussi notre société, qu'elles impactent nos ministères, qu'elles impactent notre école, qu'elles impactent notre propre sécurité et la sécurité de nos États. Et mettre ça en parallèle, on trouvait ça intéressant. On trouvait ça intéressant que finalement, nous, la plupart des gens qui ne connaissent pas le code, qui ne connaissent pas l'implication et les conséquences de leur utilisation numérique, sont finalement des prolétaires du numérique. Et qu'avec ça, ils ont le lol, quoi. C'est le smiley. On a une utilisation légère de l'informatique. Et elle n'est pas anodine. Elle est plus neutre, cette utilisation informatique. Et ça paraissait intéressant, d'autant plus que LOL, voilà, j'allais y venir, LOL, c'est, si vous le décollez, c'est aussi un anacronyme de logiciel libre. Et finalement, l'image animée, c'est un titre qui passe très bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans deux semaines, Frédéric.
Bah effectivement, parce que je n'ai pas vu le film, faisant partie des personnes interviewées, donc peut-être dans ceux qui restent en tout cas. Donc
oui, tout à fait, je vous confirme.
Et donc, c'est un plaisir de découvrir ça au cinéma, parce qu'en plus, voilà, le cinéma est un lieu que j'aime beaucoup, donc on verra effectivement graphiquement à quoi ça ressemble. Bon, en tout cas, je te remercie, donc, Françoise Haïdi. Je vais rappeler donc, que l'avant-première, donc, c'est au cinéma CGR, donc, qui est situé Porte des Lilas, Paris 20e, que pour s'inscrire, il faut envoyer un courriel donc à François. Vous retrouverez la référence sur le site de l'April, parce que c'est une présentation privée. Nous espérons que vous allez trouver un distributeur pour ensuite diffuser ce film.
C'est vraiment notre souhait. Hein. Je reprends une seconde. Gigouette Film, c'est une toute petite structure. On a fait ce documentaire de très très loin, c'est pour ça qu'on a mis 4 ans à le faire, parce qu'on voulait le faire bien et que finalement, on n'avait pas d'intérêt à le précipiter. Pour nous, le documentaire a une valeur assez particulière, on en est très fiers. On verra le 20 juin si c'est à tort ou pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a fait avec nos tripes, qu'on a fait avec notre tête, beaucoup. On n'a pas toujours été d'accord, ça a provoqué beaucoup de débats. Et je pense que ça a enrichi ce documentaire, ce produit. Et effectivement, si on arrivait à trouver quelqu'un qui serait prêt à le distribuer ou voire même à le diffuser, on serait vraiment extrêmement content.
Eh bien, appel lancé. On espère que des gens nous écouteront et pourront répondre à cet appel. Donc, merci donc Françoise Haïdi, réalisateur donc de LOL, logiciel libre, une histoire sérieuse. Bonne
une
journée.
Affaire sérieuse.
Une affaire sérieuse. Enfin, pourquoi je dis une histoire sérieuse?
En fait, une affaire, c'est même à l'écrit, une affaire sérieuse, c'est beaucoup plus lourd de sens qu'une histoire. On raconte une histoire, mais en fait, c'est une affaire. Je veux vraiment insister sur le côté que moi, j'ai découvert hein, au bout de quelques mois d'interview sur l'aspect profondément géopolitique de la question du logiciel. Et je ne parle pas de la question du logiciel libre, hein, je parle de la question du logiciel. Parce qu'au départ, et même à l'arrivée, finalement, on s'est efforcé de pas prendre parti. Je voulais juste mettre une caméra en face de personnes qui m'ont expliqué ce qu'elles en pensaient, sans voix off, donc avec moins d'artifice. Je dis pas qu'il y en a pas parce qu'il y a du montage, forcément, mais avec moins d'artifice, pour avoir des points de vue qui étaient finalement assez différents, hein, même dans les personnes qu'on a interviewées, qui sont principalement issues du libre, hein, mais c'était assez différent, les philosophies. Mais tous, absolument tous, sans exception, nous disent qu'il faut faire extrêmement attention et que la question est extrêmement sérieuse et que c'est une affaire sérieuse, vraiment. Et je voudrais les remercier. Ces 14 intervenants qui sont restés, dont vous, Frédéric, je voudrais vraiment les remercier parce qu'effectivement, sans eux, sans leur point de vue, on n'avait pas de film.
Et écoute, merci François. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Nous allons faire une pause musicale choisie par l'un de nos intervenants qui suit. Le titre s'appelle In the Desert et c'est Daniel Bautista. Et on se retrouve juste après.
Cause commune. Thank you.
Nous venons d'écouter In the Desert par Daniel Bautista, donc c'est en licence libre, les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur le site causecommune.fm partout dans le monde. Alors nous allons poursuivre avec notre sujet principal. Donc nous allons parler d'OpenStreetMap avec nos invités. Alors que je vais commencer par présenter les personnes qui sont en plateau. Donc d'abord Christian Kest, porte-parole d'OpenStreetMap France. Bonjour Christian.
Bonjour.
Noémie Lehubi qui est donc contributrice à OpenStreetMap et également secrétaire de l'association OpenStreetMap. Bonjour Noémie.
Bonjour Frédéric.
Et normalement, nous avons au téléphone donc Jean-Christophe Becquet, qui est animateur de l'initiative Dessine ta ville et formateur autour d'OpenStreetMap. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Tout le monde est là, c'est parfait. Donc c'est une première émission sur OpenStreetMap, parce que c'est un sujet tellement large qu'on fera évidemment plusieurs émissions. Les personnes qui écoutent régulièrement l'émission penseront par exemple à Wikipédia, où on a fait déjà deux émissions sur Wikipédia. Là, c'est une première émission d'introduction. Alors je vais d'abord poser une première question, mais alors dont la réponse doit être rapide, notamment aux personnes qui ont le plus de passé, on va dire. C'est votre présentation individuelle, donc qui vous êtes. Donc on va commencer par Noémie.
Donc bonjour, moi je suis donc Noémie Lehubi, je suis contributrice OpenStreetMap depuis, ça doit faire bientôt 5 ans je pense. Je m'intéresse principalement aux sujets autour des transports et de la mobilité, donc c'est aussi principalement sur ces sujets que je contribue à OpenStreetMap. Puis depuis quelques années, je m'investis dans l'association OpenStreetMap France, donc qui fait la promotion du projet OpenStreetMap sur le territoire français. Et cette année, je suis secrétaire de cette association.
Alors j'ai oublié de préciser que tu es aussi cofondatrice de Jungle Bus, donc cartographie des réseaux de transport.
Tout à fait.
Christian Kest.
Moi, j'ai démarré sur OpenStreetMap en 2009, donc un petit peu avant Noémie. Je suis un des fondateurs d'OpenStreetMap France, donc qui est une association, loi de 1901, qui fait la promotion du projet. Que dire d'autre ? Je m'occupe j'ai été président de l'association, je fais plein de choses dans l'association. Maintenant, je m'occupe un peu plus de la partie technique, faire fonctionner des serveurs.
Et intervenir à la radio.
Voilà.
Jean-Christophe Becquet.
Oui, donc contributeur aussi OpenStreetMap depuis 2011 et j'anime une initiative qui s'appelle Dessine ta ville avec les collectivités de ma région dans les Alpes du Sud et je suis formateur logiciel libre à titre professionnel et notamment du coup autour d'OpenStreetMap.
Ah merci, donc première question, c'est quoi OpenStreetMap ? Qui veut commencer ? Le porte-parole.
Vu que j'ai commencé en premier.
Voilà.
En gros, on fait l'équivalent de Wikipédia, sauf qu'on ne fait pas une encyclopédie, on fait un atlas du monde. Voilà, tout simplement. C'est contributif, c'est ouvert à tout le monde en termes de contribution. Quand on a démarré, le projet a démarré en 2004. Le décollage réel, où il a commencé à y avoir vraiment de la contribution, c'est plutôt 2007-2008. Et on est parti d'une carte blanche. Il n'y avait absolument rien, exactement comme au début, Wikipédia, il n'y avait rien. Et petit à petit, on a complété.
D'accord. Donc, une cartographie. Donc, si on fait par référence à Wikipédia, je suppose que donc, c'est sous licence libre.
Bien sûr.
Est-ce que c'est la même licence libre que Wikipédia ?
Non, c'est une licence différente. Alors, dans le passé, on a utilisé une autre licence, puis on a changé. Depuis 2012, on est sous une licence qui s'appelle l'ODBL, l'Open Database License. L'idée de cette licence, c'est de protéger les données et la base de données, de faire que... C'est un peu l'équivalent d'une CC by SA, si vous voulez, c'est-à-dire un partage à l'identique. Et l'important, c'est que les gens qui utilisent les données participent aussi à leur mise à jour et à leur amélioration, d'où le choix de cette licence. Par contre, c'est une licence qui ne protège que le côté base de données pour l'aspect partage à l'identique. Et ce que l'on fait avec cette base de données, des cartes par exemple, n'a pas besoin d'être sous la même licence. Donc on peut mettre des cartes qu'on ferait avec les données de la base de données dans d'autres licences qui permettent beaucoup, beaucoup de réutilisation.
Alors ça c'est un point intéressant et on reviendra sur la réutilisation tout à l'heure. Noémie, est-ce que tu veux compléter cette introduction sur OSM, sur donc OpenStreetMap ?
Moi, je voudrais revenir un petit peu sur le côté collaboratif et participatif, parce qu'effectivement, je pense que c'est une des grandes forces du projet, c'est que c'est sa communauté. Avant d'être un projet informatique de création de base de données, c'est un projet de communauté. Et c'est beaucoup de communautés de passionnés qui se retrouvent dans ce projet. Donc on va avoir des cyclistes qui vont venir cartographier des équipements cyclables, des pistes cyclables, des parkings vélos, etc. On va avoir, des végétariens qui vont indiquer quels sont les restaurants qui servent des plats végétariens. Et c'est un petit peu cette agrégation de passionnés qui fait qu'on a une aussi belle carte aujourd'hui.
D'accord. Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, je dis souvent que OpenStreetMap, c'est une équipe dans laquelle chacun dessine sa rue, son quartier. Les quartiers s'assemblent pour faire des régions, les régions pour faire des pays. Et à la fin, au bout de 15 ans, on a une carte du monde.
C'est une bonne présentation. On va quand même donner une information importante. Le nom peut-être du site pour aller sur OpenStreetMap, openstreetmap.org.
Voilà, c'est le site international. Il y a aussi openstreetmap.fr qui, là, c'est le site de notre association qui fait la promotion du projet. Mais le site, la grande porte d'entrée, c'est openstreetmap.org. Oui, oui.
D'accord. Alors, on va parler de contribution tout à l'heure. On va commencer par la réutilisation, même si, en fait, les deux peuvent être un petit peu mélangés. Donc j'ai envie de vous demander, pour les personnes qui utilisent d'autres outils de cartographie, hein, donc on ne va pas les citer, mais les gens voient lesquels ils utilisent, quels sont les intérêts d'utilisation d'OpenStreetMap que vous pourriez donner à la radio, comme si vous étiez un petit peu en soirée, quelqu'un vous dit, tiens, j'ai un itinéraire, machin, je vais utiliser telle appli privatrice, et toi, vous leur dites, ben non, attendez, il y a OpenStreetMap. Alors, des exemples d'utilisation. Christian Quest.
Des exemples d'utilisation. Eh bien, la grosse différence qu'on a entre OpenStreetMap et des services qui commencent par exemple par un G, c'est l'accès aux données qui permet à des développeurs de faire des applications ou des outils adaptés à une problématique bien particulière. Noémie a cité par exemple les cyclistes. Pendant longtemps, les cyclistes au niveau de la cartographie étaient un petit peu la cinquième roue du carrosse. Il n'y avait pas vraiment de carte qui leur était dédiée, il n'y avait pas vraiment de site qui fonctionnait, qui était destiné à cette population-là. Mais le fait d'avoir énormément de données sur la cyclabilité dans OpenStreetMap, ça a permis par exemple à une entreprise comme GeoVélo, enfin, c'est pas nom d'entreprise, c'est donc une appli qui s'appelle GeoVélo, de fournir vraiment un excellent outil pour les cyclistes. Et c'est ça la particularité que l'on a quand on a accès à l'intégralité des données, pas simplement à des services qu'on vous offre sur des données. Et le fait d'avoir cet accès complet permet énormément d'innovation et énormément d'usages qui, sinon, ne sont pas possibles parce que les services tout près mâchés vous limitent dans votre imagination et dans votre innovation. Donc, ça, c'est une des grandes particularités. Ça me permet, moi, par exemple, de faire une carte dédiée pour des pilotes de vol libre, de parapente ou de delta. Parce que je vais sélectionner vraiment les informations qui sont utiles à ces gens-là. Parce qu'une carte, la particularité d'une carte, c'est qu'elle est destinée, en général, à un usage. Vous n'allez pas du tout mettre la même chose sur une carte pour des chauffeurs poids lourds et des cyclistes. Pour un chauffeur poids lourd, il va vouloir voir les grands axes de circulation, là où il peut circuler, alors qu'au contraire, un cycliste, pour lui, une autoroute, c'est une barrière infranchissable. Il n'a pas le droit de circuler dessus, et puis il ne peut pas la couper non plus. Donc vous voyez, la carte est une représentation du monde en fonction de ce que l'on veut faire. Et donc ça, c'est très important d'avoir un accès libre à toutes les données qu'il y a en dessous.
D'accord. Noémie ?
Oui, effectivement, je rejoins pas mal ce que dit Christian. Je pense aussi qu'on a beaucoup parlé de cartes, mais effectivement, OpenStreetMap, c'est une base de données. On peut faire plein de choses avec, dont des cartes. Moi, sur ma thématique, par exemple, qui est plutôt le transport, on va pouvoir faire d'autres choses que des cartes. On peut aussi faire des plans schématiques, du calcul d'itinéraire, etc. Et tout ça, c'est possible justement parce que l'écosystème est ouvert, parce que la base de données est sous licence libre et parce que d'autres acteurs peuvent du coup l'utiliser et faire grossir cet écosystème, idéalement avec des logiciels libres, mais ce n'est pas obligé.
Et on est, je suppose, indépendant du choix des algorithmes, contrairement aux autres outils qui commencent par un G ou par un W pour certains. Finalement, c'est la porte ouverte, entre guillemets, à la liberté qui va dépendre avant tout des usages, comme vous l'expliquiez tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Et puis on vise une grande neutralité aussi dans nos données. On a par exemple des sujets de temps en temps de positionnement de frontières entre certains pays qui ne sont pas d'accord, ou bien quel est le nom par défaut qu'on va faire apparaître sur une carte pour par exemple une ville comme Jérusalem. On va le mettre dans quelle langue ? Voilà, c'est pas évident. Et en fait, dans notre base, on a, je ne peux pas dire toutes les langues, mais si vous prenez le cas de Paris, je crois qu'il y a 250 langues différentes. On peut faire des cartes et des applications, effectivement. Noémie a rappelé qu'on ne s'arrête pas aux cartes, qui ne sont pas limitées par la langue, etc. etc.
Jean-Christophe ?
Oui, eh bien, comme Noémie l'a dit, donc OpenStreetMap, c'est d'abord une base de données géographiques sur laquelle s'appuie tout un ensemble de services en ligne, ceux qu'on trouve sur le site openstreetmap.org, mais aussi tout un tas d'autres. Et en fait, cette base de données libre et ces enjeux libres, leurs enjeux rejoignent les enjeux du logiciel libre qu'on défend à l'April, c'est-à-dire retrouver la maîtrise de son informatique, retrouver la maîtrise de ses données. Et tout simplement, dans la base de données OpenStreetMap, si je constate une erreur, un manque, une information qui n'est pas à jour, eh bien, comme dans Wikipédia, je clique sur le bouton « Modifier », je corrige, je complète, et dans l'instant, la base de données est actualisée, complétée, améliorée. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un enjeu important, ce caractère libre de la base de données OpenStreetMap, qui permet voilà, de retrouver la maîtrise de sa base de données. Et dans ma ville, à Digne-les-Bains, la base de données OpenStreetMap est de qualité nettement supérieure, parce qu'il y a des contributeurs OpenStreetMap dans ma région, à celle de ses concurrents propriétaires. Et donc aujourd'hui, si on cherche un service public, un restaurant, une adresse à Digne, il vaut beaucoup mieux passer par OpenStreetMap que par les cartes propriétaires.
Alors merci Jean-Christophe. Donc là, je regarde le salon web de la radio. Donc je rappelle, c'est sur causecommune.fm. Vous cliquez sur chat. Il y a une question et une remarque. Alors je vais commencer par la remarque de 1902. C'est son pseudo qui nous dit « Ce que j'aime avec OpenStreetMap, c'est que l'on peut utiliser les données cartographiques même en étant hors ligne. » Donc ça, c'est la remarque. Je vous laisserai réagir là-dessus. Et je vous donne la question qui concerne alors plus OpenStreetMap France, qui est donc de PG. Est-ce que l'association est dotée d'une équipe de cartographes ? Donc déjà, est-ce que vous voulez réagir sur la première remarque sur le fait qu'on peut utiliser des données cartographiques même en étant hors ligne, c'est-à-dire sans connexion hein, Internet, donc je suppose évidemment sur téléphone mobile notamment.
Noémie ? Oui, pourquoi pas. Bah oui, tout à fait. Il y a plusieurs applications mobiles qui existent, qui reprennent justement ce principe. On peut citer par exemple OSM And ou plus récemment Maps.me. Et effectivement, c'est des applications qui font un peu tout ce qu'on attend d'une application mobile de cartographie. On peut se repérer avec son GPS, on peut regarder ce qu'il y a autour de nous, chercher des lieux, calculer des itinéraires, enregistrer son adresse préférée en favori, etc. Et le tout, effectivement, va fonctionner hors ligne, ce qui va permettre de l'utiliser, par exemple, à l'étranger, si on n'a pas de réseau, etc. Et ça, effectivement, c'est une grande force d'OpenStreetMap qui est venue très tôt. Ça fait assez longtemps que ces services-là existent. Et moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert OpenStreetMap. C'est en utilisant une de ces applications pendant mes vacances à l'étranger que je suis tombé dedans.
Je vais compléter la remarque donc, de toujours 1902 qui précise le manque. Parce qu'évidemment, tout n'est pas toujours rose. Ce qui manque, dit-il, ce sont les données de trafic routier en temps réel. Donc par rapport à d'autres applications où il y a effectivement les infos de trafic. Christian, Kest.
Alors oui, tout à fait. OpenStreetMap a vocation à décrire le monde, on va dire un monde un petit peu statique, une base de données géographique, mais relativement statique, avec des choses qui ont de la pérennité. Donc tout ce qui est très temporaire, comme des travaux, ou des bouchons, ou des accidents, effectivement, ça n'a pas sa place dans la base OpenStreetMap. Bon, je vais faire une toute petite parenthèse, j'ai essayé de démarrer un projet qui s'appelle Open Event Database pour venir combler ce manque et pour venir compléter OpenStreetMap en apportant des données qui, elles, sont localisées dans l'espace, mais aussi dans le temps, donc avec des choses beaucoup plus liées au temps réel. Mais là, pareil, il va falloir qu'il y ait de la collaboration. Il faut que tout le monde partage ses données temps réel, ce qui n'est pas évident. Déjà, pour les données cartographiques, quand on a démarré, c'était pas évident. Mais alors, pour les données temps réel, aujourd'hui, c'est encore considéré comme le petit trésor.
Alors, ça me fait venir à la tête... Pas ma journée, je pense, aujourd'hui. J'ai une question, mais je vais la poser juste après. Je vais relancer la question sur OpenStreetMap France. Christian, est-ce qu'il y a une équipe de cartographes qui est au sein de l'association ?
Alors, il n'y a pas d'équipe en tant que telle de cartographes. Il y a beaucoup de gens dans l'association qui n'ont pas non plus une formation de cartographe. Il y a des gens qui collectent de la donnée et qui les utilisent. Mais en fait, c'est assez décorrélé du côté association. Ce qu'on essaye vraiment de maintenir dans l'association, c'est d'être un point de contact pour toutes les... ça peut être des entreprises, ça peut être des médias, ça peut être des autorités qui veulent avoir un lien avec le projet OpenStreetMap, parce que bon, bah, ce sont des centaines de milliers de contributeurs. Comment un média contacte des contributeurs? C'est extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça, c'est entre autres pour ça qu'on a créé l'association. Et aussi pour organiser une conférence annuelle, pour avoir des serveurs, pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Mais on essaye de garder le côté association assez limité. Et voilà, il y a que des bénévoles, donc il y a zéro employé, c'est très important de le dire, même au niveau international.
Hein. Alors même au niveau de la fondation, enfin, est-ce que c'est une fondation au niveau international ?
Alors au niveau international, il y a une fondation de droit anglais, qui correspond à peu près à l'équivalent d'une association à but non lucratif. Il y a un demi-employé, si je ne me trompe pas, qui s'occupe vraiment d'administratif. Voilà, c'est tout. Tout le reste fonctionne avec uniquement des bénévoles, ce qui fait que le budget de l'association est absolument ridicule par rapport à d'autres projets. Quand on compare, par exemple, le budget de la...
De Wikipédia, par exemple.
Voilà, quand on compare... Alors, Wikipédia, c'est plusieurs millions de dollars par an. La fondation OpenStreetMap, je crois qu'on doit être aux alentours de 200-300 000 euros, c'est tout.
D'accord. Quelqu'un veut compléter sur la partie réutilisation avant de parler de la partie contribution ? Jean-Christophe, peut-être ?
Oui, alors effectivement, avec les données OpenStreetMap, tout un chacun va pouvoir inventer, imaginer, comme le disait Christian, les services qu'il souhaite. Par exemple, si aujourd'hui vous venez en vacances à Digne-les-Bains et que vous allez à l'office de tourisme, vous demandez un plan de la ville. Le plan de la ville qui vous sera donné, c'est un plan qui a été imprimé à partir d'une extraction des données OpenStreetMap. Et si vous vous dites que vous voulez emprunter les transports en commun, il y a un tout petit réseau de bus à Digne, seulement 5 lignes, et que vous demandez le plan du réseau des bus, eh bien, de la même manière, le plan du réseau des bus, c'est une extraction OpenStreetMap, et chaque affichette que vous trouverez dans les abris bus pour vous indiquer les arrêts desservis par la ligne a été réalisée effectivement avec des données OpenStreetMap. Donc on voit bien que OpenStreetMap, la base de données OpenStreetMap est un véritable outil de production. Alors moi, je travaille beaucoup avec les collectivités, donc j'emprunte les exemples dans ce domaine-là, mais ça s'applique vraiment à tout type d'utilisateurs, puisque aujourd'hui, des données géographiques, c'est vraiment un sujet de convergence entre tous les domaines, tous les métiers. Moi, je fais un petit peu d'enseignement, j'interviens auprès d'étudiants en génie biologique et je leur fais des cours de cartographie. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de l'agronomie et qu'on travaille sur des exploitations agricoles, on a besoin de cartographier des parcelles, des cours d'eau, des canaux d'irrigation. Et donc, on voit bien que c'est un sujet complètement transversal. Et le fait de disposer d'une base mondiale de données libres, ça va vraiment venir servir à tout le monde.
Très bien. Alors, on va passer à la partie contribution, parce que tout à l'heure, dans l'introduction, le mot collaboratif ou participatif ou contributif a été évoqué et plusieurs fois on a parlé de personnes qui y contribuent. Et donc, bah, j'ai envie de me poser, je me dis, je suis sur une carte donc, sur OpenStreetMap, donc .org. Tout à l'heure, l'une de vous, je ne sais plus, a dit bah, on peut utiliser le bouton modifier pour ajouter une information, un peu comme sur Wikipédia. La question, c'est est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il faut des connaissances techniques ? Est-ce que quand on appuie sur ce bouton de modification, il y a un éditeur qui nous permet de nous aider ? Est-ce qu'on peut rentrer n'importe quelle information ? Est-ce qu'on peut supprimer les informations ? Quelles sont les limites ? Alors, quelles informations on peut indiquer ? Quelles sont les limites éventuelles ? Et est-ce que finalement, est-ce qu'il faut être cartographe pour contribuer à OpenStreetMap ? Noémie ?
Alors, pas du tout. Il ne faut pas du tout être cartographe pour contribuer à OpenStreetMap. C'est complètement accessible. Effectivement, le point de départ, c'est d'aller sur OpenStreetMap.org et puis de cliquer sur « Modifier ». Et là, on a effectivement un éditeur web qui est disponible directement sur le site, qui permet de faire ses premiers pas très facilement, donc de visualiser un petit peu les données OpenStreetMap, de voir à quoi ça ressemble, et de faire ses premières modifications. Et du coup, j'ai envie de dire que le seul prérequis pour commencer à contribuer dans OSM, c'est de connaître son quartier, de connaître sa rue, de connaître un petit peu tout ce qu'il y a autour de soi, et de se lancer. J'irais même encore plus loin, puisqu'on a déjà mentionné des applications mobiles. C'est qu'aujourd'hui, dans des applications mobiles telles que Maps.me ou OSMand qui sont basées sur OpenStreetMap, on a aussi la possibilité de faire des modifications. Donc de la même manière, on va avoir un bouton modifié qui va apparaître et qui va permettre d'ajouter par exemple un commerce ou de modifier les horaires d'ouverture d'un restaurant. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très accessible et c'est très facile de faire ces premières modifications.
Un peu comme sur Wikipédia, donc c'est aussi simple techniquement.
Oui, Christian Kest ?
Oui, il y a une grosse différence par contre, c'est qu'aujourd'hui, pour contribuer dans Wikipédia, il faut être assez expert d'un domaine.
Oui, tu as raison.
Voilà. Alors qu'on est tous experts de notre quartier.
C'est effectivement une bonne remarque sur la différence importante.
Ça fait qu'on peut très facilement contribuer en maintenant à jour des informations qu'on peut juste constater. Alors, il y avait une autre partie dans ta question, c'est qu'est-ce qui a sa place dans OpenStreetMap Qu'est-ce qui n'a pas sa place? Tout à l'heure, j'ai un peu parlé, par exemple, des choses qui sont très temporaires, des travaux, des choses comme ça. Et puis, on a quelques règles assez simples. Par exemple, il faut que ça soit vérifiable sur le terrain. Il faut qu'on puisse aller sur le terrain et le vérifier, ou bien avoir une source qui permet vraiment de le vérifier. Il y a certaines choses qui ne sont pas vérifiables sur le terrain, comme par exemple la limite entre deux communes, elle n'est pas tracée au sol. Donc voilà. Par contre, on a des sources qui permettent de les vérifier. Et puis, autre chose, c'est les sources d'informations qu'on utilise. Il faut qu'elles soient libres. Il ne faut pas qu'on... Par exemple, une des règles qu'on a, on n'en a pas beaucoup des règles, mais on a une des règles qui est quasiment la numéro un, c'est on ne copie pas de cartes. Parce que en général, toutes les autres cartes que l'on peut trouver, sauf les cartes qui sont faites avec des données OpenStreetMap, mais là, bon, ça serait un peu le serpent qui se mord la queue. Toutes les autres cartes, en général, il y a un copyright dessus et on ne peut vraiment pas reprendre des informations qui sont sur ces cartes.
Alors, c'est une très bonne remarque parce que sur le salon web, alors aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de questions. Quelqu'un dont le pseudo est dans les limbes, je crois qu'ils sont très imaginatifs aujourd'hui. La question, donc, comment la licence d'OpenStreetMap peut-elle interagir, entre guillemets, avec des bases d'autres services, donc IGN, données d'entreprise? Je crois que tu viens un peu en partie de répondre à la question, mais tu peux évidemment compléter.
On va voir, en général, c'est assez difficile d'utiliser les données si elles n'ont pas été mises au préalable sous une licence libre. Les données en open data en France sont largement utilisables dans le cadre d'OpenStreetMap, donc ça peut être une bonne source d'informations pour mettre à jour la base de données. On a d'ailleurs une source très importante qui nous a été ouverte depuis 2009, c'est le cadastre. Les services du cadastre nous ont autorisé à utiliser les plans cadastraux pour améliorer les données OpenStreetMap, ce qui nous a permis de compléter énormément de noms de rues, par exemple, sans forcément aller sur le terrain. On ne peut pas être partout et on n'a pas non plus des contributeurs partout.
Alors, il y a pas mal de questions sur le salon web, mais on va faire une petite pause musicale et on poursuivra sur la partie contribution. Nous allons écouter le chariot de Malik par Lostana. Et on se retrouve juste après.
Cause commune
93.1. Chariot de Malik est un peu plus que beau. Il est un peu rigolo. Il est un peu rigolo. Le chariot de Malik est un peu plus que beau. Il est un peu rigolo. Il est un peu rigolo. Il y a des casiers carrés de tous les côtés. Malik y range ses pchit pchit. Malik y range ses pchit pchit. Carré de tous les côtés. Malik y range ses pchit pchit. Malik y range ses pchit pchit. Et chariot est orné d'un joli crochet pour accrocher son balai, pour accrocher son balai. Et le chariot est orné d'un joli crochet pour accrocher son balai, pour accrocher son balai.
Nous venons d'écouter Le Chariot de Malik par Lostana, disponible sous licence Creative Commons Attribution. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion, notre échange donc sur OpenStreetMap avec Jean-Christophe Becquet qui est au téléphone, Noémie Lehubi et Christian Kess qui sont sur place. Alors je vais poursuivre sur quelques questions. Sur le salon web, je ne vais pas forcément pouvoir toutes les prendre. Hein. Donc il y avait une question sur la gestion des données personnelles, avec notamment la contribution par position GPS, puisque juste avant la pause, on mentionnait des applications. Ça me fait penser aussi par exemple à une question, est-ce qu'on peut rajouter sur OpenStreetMap l'adresse de personne, ou est-ce que c'est interdit?
Alors ça c'est une limite assez claire pour nous, c'est on ne va pas mettre de données personnelles dans la base de données. On s'est même posé la question, par exemple, sur les cabinets de médecins, a-t-on le droit de mettre le nom du médecin, etc., etc. Bon, ça discute de temps en temps, mais OpenStreetMap n'a pas vocation à devenir un annuaire, donc c'est pas ça. Ce qui est important, c'est j'ai besoin de trouver un médecin à proximité, et donc il y en a un qui est là, quel que soit son nom, c'est pas le sujet. Il y a des annuaires pour ça. Pour les données vraiment personnelles, ça n'a pas sa place dans OpenStreetMap, et donc ça sera retiré si jamais quelqu'un rajoute ce genre de choses. Parfois, ça arrive. Par méconnaissance, par incompréhension du projet. On a eu comme ça des modifications parfois qui n'étaient pas franchement souhaitables. Quelqu'un qui met son carnet d'adresses, puis bon, bah, on lui a gentiment fait comprendre que tout le monde du coup y avait accès, que c'était pas possible, donc on a retiré des données.
Alors, c'est important, excuse-moi de te couper, parce que par rapport à Wikipédia dans l'émission, on avait dit les gens peuvent faire des erreurs parce qu'on peut revenir en arrière. Oui. En fait, c'est la même chose, donc dans OpenStreetMap.
Oui, tout à fait. C'est la même chose. On a un système de, on appelle ça nous des reverts, c'est-à-dire on peut revenir en arrière sur une version d'un objet dans la base de données. Alors, c'est vraiment beaucoup plus structuré base de données que ne peut l'être Wikipédia. On va dire qu'on se rapprocherait plus de Wikidata, pour ceux qui connaissent Wikidata. Donc chaque objet a tout son historique accessible et on peut revenir en arrière et le supprimer. On peut aussi faire ce qu'on appelle des éditions, des rédactions, où là, même la version, une version de l'objet n'est plus accessible. Typiquement, quand il y a des données personnelles problématiques, on va faire que, on dira oui, cette version de l'objet, elle existe, mais tu n'y as pas accès. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de tout à fait géré, gérable, et on fait très attention à ce genre de choses.
D'accord. Jean-Christophe, tout à l'heure, je crois que c'est Christian qui a parlé des vélos. Noémie, je ne sais Noémie. Plus, c'est Noémie. Je crois que toi, tu es un grand randonneur. Je parle à Jean-Christophe. Hein. Christian, qu'est-ce que tu fais ? Les yeux. Je parle à Jean-Christophe, qui est un grand randonneur. Donc, ma question, c'est donc, par rapport à la contribution, on vient de parler de contribution utilisant le bouton modifier en rajoutant une information, une contribution potentielle, j'imagine, c'est utiliser un téléphone ou un objet GPS pour tracer des chemins, notamment de randonnée.
Oui, tout à fait. En zone rurale, le GPS est encore un outil de contribution bien utile parce que les sentiers de randonnée ne figurent pas forcément sur le cadastre, par exemple. Donc, on peut effectivement commencer une randonnée, démarrer son téléphone en mode enregistrement de traces GPS. Et ensuite, les outils de contribution à OpenStreetMap permettent d'utiliser donc le fichier qu'on obtient, qui est un fichier au format GPX, contient des points avec l'heure de passage à ce point et les coordonnées latitude, longitude et l'altitude également du point pour tracer des chemins sur OpenStreetMap. On peut aussi renseigner des chemins de randonnée sur OpenStreetMap en utilisant des données open data. Mon département, les Alpes-de-Haute-Provence, a libéré l'année dernière sous licence libre un jeu de données qui s'appelle le plan départemental des itinéraires de randonnée pédestre, qui donc contient le tracé de tous les chemins entretenus, maintenus par le conseil départemental pour la pratique de la randonnée, du VTT, de la raquette et du ski de fond, etc. Et donc ces données peuvent être utilisées pour abonder la base OpenStreetMap, tracer des nouveaux chemins, des nouvelles pistes de randonnée, de VTT.
Alors ça me fait penser que je vais changer de sujet. Enfin, j'ai posé une question sur un sujet un petit peu différent. Et juste après, on revient avec toi, Jean-Christophe, notamment sur le projet Dessine ta ville et le lien avec les collectivités. Si je me souviens bien, un usage important d'OpenStreetMap, c'est lors d'incidents ou même d'accidents graves dans des pays, tremblements de terre ou zones de conflit, où là, il y a une vraie réactivité qui n'est pas possible avec les autres outils privateurs. Est-ce que quelqu'un veut parler de ça rapidement ?
Oui, je peux un peu raconter les premières mobilisations qu'on a pu avoir dans le cas de crise humanitaire. La première où il y a vraiment eu de la mobilisation, c'était quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, où les cartes d'Haïti dataient des années 60, étaient sous format papier et il n'y avait absolument rien en numérique. Et il faut savoir que lorsqu'il y a des crises importantes comme ça, il existe une charte de l'espace qui fait que les premières images satellites qui sont prises par des agences spatiales dans le monde sont partagées. Et ça permet du coup, donc elles sont libérées, hein, et on peut réagir très très vite et par exemple tracer l'état des routes tel qu'il est après la catastrophe et pas tel qu'il était avant. J'étais pas encore très impliqué dans OpenStreetMap au moment d'Haïti. Par contre, j'ai passé quelques nuits blanches à cartographier une bonne partie de la côte japonaise après le tsunami. On sait que ça a été utilisé par les secours sur place parce qu'ils avaient des informations qui étaient à jour dans leur GPS tous les matins. Donc, ils rechargeaient leur GPS tous les matins pour savoir par où ils pouvaient passer, parce que là, le problème, c'était comment circuler alors que tout le réseau routier de la côte avait été détruit. Il y a eu plein d'autres cas. Il y a eu des cas aux Philippines avec le typhon Haiyan, il y a eu le tremblement de terre au Népal. Et puis, on a eu quelques échos dans les médias. Mais on a des missions régulières de ce type-là qui sont déclenchées par une organisation qui s'appelle HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team. Donc là, c'est une structure dédiée qui s'est créée après Haïti pour gérer justement l'interaction avec les autres ONG. On est intervenu aussi en Afrique à la demande de Médecins Sans Frontières pour cartographier des villes où aucune carte n'existait. C'était au tout début des foyers d'Ebola. Et il y avait une suspicion. Médecins Sans Frontières devait intervenir sur place, nous a demandé « Est-ce que vous pouvez nous aider à cartographier cette ville ?» C'est une petite ville, je crois qu'un million d'habitants. Et donc les médecins sont arrivés avec le matériel et les cartes de la ville, alors que la ville n'avait absolument aucune carte.
Super. Noémie, est-ce que tu veux compléter là-dessus ?
Oui, c'est intéressant parce que ça nous permet de revenir un petit peu à ce qu'on disait avant sur les différentes manières de contribuer, où effectivement on peut voir que y a le fait d'aller sur le terrain et de cartographier parce qu'on connaît sa rue. Il y a ce qu'a mentionné Jean-Christophe de contribuer avec d'autres données qui peuvent être ouvertes. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir contribuer à partir d'imagerie satellite ou aérienne qui sont mises sous une licence compatible. Et du coup, on a quand même une très grande variété de possibilités pour contribuer à OpenStreetMap. C'est aussi ça qui fait la richesse du projet, c'est que ça se renouvelle énormément et qu'on va pouvoir cartographier de manière très différente selon ses envies et ses motivations.
Très bien. Alors, Jean-Christophe, dans ton introduction, tu as parlé du projet Dessine ta ville, si je me souviens bien du terme exact, donc pour impliquer notamment les collectivités. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Oui, donc le projet Dessine ta ville, c'est une initiative qui comporte trois étapes, qui s'adresse donc effectivement aux collectivités locales. La première étape, c'est de sensibiliser les collectivités à OpenStreetMap. précisément ce qu'on est en train de faire dans cette émission. En interne, dans la collectivité, à destination des élus, des agents, expliquer OpenStreetMap, son fonctionnement, ses enjeux, répondre aux appréhensions qui peuvent se poser comme « mais si tout le monde peut éditer la base de données, alors n'importe qui peut faire n'importe quoi ». Donc expliquer comment la communauté OpenStreetMap se régule et se contrôle, hein, comme l'a expliqué Christian à l'instant. Et puis sensibiliser en externe les habitants, les citoyens de la commune, les écoles, les organismes de formation, les associations, organiser des conférences pour expliquer le fonctionnement de OpenStreetMap, par exemple à la médiathèque ou dans une maison de quartier. Une fois qu'on a expliqué au plus grand nombre le fonctionnement, l'intérêt, les principes d'OpenStreetMap, on va essayer de mener des actions pour susciter la participation, c'est-à-dire encourager les personnes à contribuer à la base de données OpenStreetMap. Pour ça, la collectivité, la première chose qu'elle peut faire, c'est donner l'exemple. Par exemple, la mairie de Digne-les-Bains, il y a quelques années, a embauché pendant 4 mois l'été une stagiaire dont la mission était de cartographier le réseau des bus de la ville dans OpenStreetMap. Et le fait que la base de données monte en qualité, monte en exhaustivité, ça rend plus facile ensuite la contribution pour aller corriger les petites erreurs, compléter les petites informations qui manquent, et donc ça incite les personnes à contribuer. Une autre manière d'encourager la contribution, c'est de fournir des données en open data. La localisation des écoles, les services publics, les bâtiments accessibles au public. Une chose qui pratique, un type d'événement qui pratique beaucoup dans la communauté OpenStreetMap, c'est d'organiser ce qu'on appelle une cartoparty. Donc une cartoparty, ça consiste à donner rendez-vous à un groupe de gens, en général sur une demi-journée ou une journée, et leur proposer de cartographier un quartier ou une thématique dans un quartier dans OpenStreetMap. Donc ça peut être une cartopartie générique où on dit aux gens de venir et chacun contribue sur la thématique qui l'intéresse, ou alors une cartopartie thématique. Par exemple, à Digne, on a organisé une cartopartie sur le thème du vélo, sur le thème de la cyclabilité, où on a cartographié les pistes cyclables, les équipements pour la maintenance des vélos, les garages à vélo, les sources d'eau potable pour remplir sa gourde quand on se déplace à vélo. Une cartopartie sur le thème de la santé, où on a cartographié les cabinets médicaux, les pharmacies, les différents bâtiments du centre hospitalier. Et donc, toutes ces contributions vont faire monter la qualité de la base de données en exhaustivité, en actualité, et vont rendre à chaque fois encore plus attrayantes les réutilisations. La réutilisation, c'est la troisième étape de la démarche des signes David. D'abord sensibiliser, ensuite susciter la participation, enfin réutiliser. Effectivement, une fois qu'on a une base de données qui a atteint un certain niveau de qualité, on peut, comme je l'expliquais tout à l'heure, utiliser cette base de données pour fabriquer des plans de ville pour le tourisme, pour les réseaux de transport en commun. On peut utiliser cette base de données en fond de carte sur son site web pour localiser les équipements publics, pour localiser les écoles. D'un point de vue un petit peu plus technique, on peut intégrer la base de données OpenStreetMap dans son SIG. Donc SIG, c'est l'acronyme de Système d'information géographique. C'est un type de service qui se répand de plus en plus dans les collectivités, qui utilise des outils donc permettant de cartographier, de géolocaliser tous les points du territoire. Et aujourd'hui, une des problématiques des SIG, c'est d'être alimenté en données. Alors la base de données, OpenStreetMap, pour ça, c'est un trésor parce qu'elle est libre, donc on peut l'utiliser sans contrainte. Et en plus, si on a mené des actions pour encourager la participation, on va avoir une base de données de très grande qualité en termes de complétude, en termes de fraîcheur, et donc très intéressante, très utile pour le SIG de la collectivité.
Alors, merci Jean-Christophe. Tu as parlé de réseau de transport, ça me fait penser que dans l'introduction de Noémie, j'ai cité Jungle Bus. Alors c'est quoi Jungle Bus ?
Alors Jungle Bus, ça part d'un constat très simple, un peu triste, c'est que La plupart des villes dans le monde n'ont pas de plan de transport et n'ont pas, de manière générale, d'informations voyageurs sur les transports qui y circulent. Et un deuxième constat, c'est qu'avec OpenStreetMap, on peut remédier à ça. Donc effectivement, dans OpenStreetMap, on peut cartographier des arrêts de bus, des gares, des lignes de bus, des trajets de bus, etc. Et comme la base de données est libre et réutilisable, ben on peut également, une fois qu'on a cartographié tout ça, s'en servir pour faire des plans de transport, des plans géographiques, des plans schématiques, des plans qu'on peut afficher sur les bus, pour faire des applications de calcul d'itinéraire, etc. etc. Et donc voilà, du coup, l'idée de Jungle Bus, c'était ça. C'était de se dire, allons cartographier les réseaux de transport pour lesquels les gens ne savent pas comment les utiliser, où passent les bus, etc. Et donc voilà, ça fait quelques années qu'on fait ça. On a eu notamment un gros projet à Accra, donc la capitale du Ghana, pour cartographier l'intégralité du réseau de transport de bus informel, donc qui fait environ 300 lignes. Et puis, on a pu ainsi déployer les premières applications mobiles d'information voyageurs dans la ville. Et voilà, du coup, on a plusieurs actions autour de ça, que ce soit créer les outils pour permettre aux contributeurs de se saisir du sujet et de cartographier les données d'OpenStreetMap, créer aussi les outils pour réutiliser les données et en faire des choses utiles pour les voyageurs, et accompagner les collectivités locales qui en ont besoin, qui ont besoin de comprendre un petit peu comment ça marche OpenStreetMap, accompagner les contributeurs aussi qui veulent faire ça bénévolement ou pas, etc. etc. Donc il y a énormément de travail sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, OpenStreetMap est une solution pertinente, mais qui n'est pas forcément encore très connue des personnes à qui elle pourrait bénéficier. Donc voilà, c'est un beau projet dans lequel je m'investis depuis quelques années.
Alors c'est Jungle Bus. Alors ça me fait penser que tout à l'heure, j'ai fait un petit quiz, j'ai posé deux questions, je vais répondre à la deuxième question. Donc la question c'était, quel site web utiliseriez-vous pour trouver ou boire votre bière préférée autour de chez vous ? Boire, je répète, avec modération, hein, évidemment. Et bien le site c'est OpenBeer.com. Map, tout simplement. Donc vous cherchez sur un moteur de recherche, et sinon c'est openbeermap.github.io, et c'est un projet qui a été lancé par Noémie il y a quelques années. Combien de temps?
C'était en 2014, il me semble. Oui, tout à fait. Donc c'était un petit projet que j'avais lancé à mes débuts dans OpenStreetMap. Je venais vraiment de commencer à ce moment-là, et puis en sortant d'un bar un soir, un bar qui n'était pas génial, où j'avais bu une bière pas génial, mais je me suis dit que quand même ça serait vraiment pratique de pouvoir choisir son bar en fonction des bières qu'on y sert. Donc voilà, si on est amateur de bière, c'est sûrement quelque chose qui va vous parler, de se dire qu'on a envie de boire une bonne bière artisanale ou une bonne bière belge par exemple, plutôt que la bière classique. Bon, on va pas la citer, on va juste dire classique. Donc voilà. Et donc voilà, du coup, je me suis dit que OpenStreetMap, ça pouvait être une solution pour ça. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la base de données. Et puis j'ai créé un petit site qui permet de visualiser effectivement les bars autour de soi et les bières pression qui sont servies dans ces bars, puisque c'est une information qu'on peut mettre dans OpenStreetMap. Et puis comme il n'y en avait pas beaucoup, je suis même allé un petit peu plus loin. J'en ai fait un petit éditeur. Donc sur le site OpenBeerMap, on peut aussi modifier donc les informations classiques du bar, son nom, ses horaires d'ouverture, etc., les horaires des happy hours, ce genre de choses, et bien sûr les bières pression qui sont servies dans le bar. Et donc ça fait depuis 2014 que le site existe, donc donc ça a un projet libre, bien sûr. Donc je l'ai initié, mais j'ai eu aussi pas mal de contributions sur la partie code, en plus des très nombreuses contributions sur la partie données qui sont du coup directement reversées dans OpenStreetMap.
Christian, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ?
Oui, ça montre, je pense que c'est essentiel ce genre de choses, parce que ça montre que, évidemment, sur une carte, c'est très difficile de représenter tous ces détails. Et ça montre tout l'aspect base de données qui est essentiel à OpenStreetMap, parce qu'on va pouvoir renseigner avec des détails incroyables. On n'a pas parlé, par exemple, de l'accessibilité. C'est un projet aussi qui est né très très tôt dans l'histoire d'OpenStreetMap, c'est renseigner l'accessibilité pour les personnes handicapées. Et il y a des villes qui se sont emparées du sujet et qui ont cartographié l'accessibilité des commerces, etc., en s'appuyant sur OpenStreetMap, sur des contributeurs, sur des personnes handicapées aussi. Et ça permet, quand on fait ce genre de cartopartie thématique aussi, de remettre un sujet sur la place publique, organiser toute une série de cartoparties sur les transports, sur la santé, sur l'accessibilité, éventuellement sur les bières, ça remet le sujet dans la discussion.
Alors, le temps file, il faudra qu'en fin d'émission, on parle rapidement d'Open... The State of the Map France, excusez-moi. Mais j'ai deux questions. Est-ce que les changements récents de facturation ou de tarification de Google Maps, vous avez vu un effet positif sur le fait que de plus en plus de sites allaient utiliser un fond de carte OpenStreetMap à la place de Google Maps? Première question. Puis la deuxième question, qui est un peu plus générale, là, c'est, pour finir là-dessus, ça sera plutôt, vous avez parlé des cartographies, une personne qui souhaite s'y mettre et qui ne veut pas s'y mettre seule, comment elle peut s'y mettre? Est-ce que c'est OpenStreetMap France, la principale source de référence? Est-ce qu'il y a des événements? Voilà, comment elle s'y met?
Alors, je peux répondre sur la première question. On a constaté, un intérêt évident pour OpenStreetMap. Beaucoup de gens qui s'appuyaient sur des solutions gratuites ont cherché évidemment des solutions gratuites de remplacement. J'ai écrit plusieurs articles à ce sujet-là pour dire que le gratuit en la matière, ça a forcément des limites, parce que générer des fonds de cartes et les servir comme on le fait, ça nécessite de l'infrastructure et ça a un coût, et c'est dommage d'avoir laissé penser pendant des années que tout ça ne coûtait rien. C'est une forme de dumping qui pose quand même de sérieux problèmes. Nous, on a constaté sur les serveurs d'OpenStreetMap France une augmentation d'à peu près 110% du trafic sur nos serveurs de fonds de cartes. Donc voilà, et on voit bien la corrélation en termes de date avec l'été dernier et avec l'automne. Donc il y a eu deux pics d'augmentation et depuis, ça n'est pas redescendu et ça va sûrement pas redescendre. Donc voilà, ça veut dire un petit peu plus de ressources à mettre en batterie de notre côté. On a des gens qui nous aident. On n'en a pas parlé, ça vaut le coup quand même de dire qu'il y a, il y a des entreprises, il y a des collectivités, il y a des universités qui nous mettent à disposition du matériel, des entreprises. On a au moins deux grosses entreprises qui nous donnent un coup de main, qui sont OVH et la Fondation d'entreprises Free, donc qui nous mettent à disposition des serveurs pour pouvoir faire tourner une partie de notre infra française. Et puis on fait de temps en temps des appels aux dons pour compléter, pour remettre à jour des machines. Et je vais laisser Noémie répondre sur l'autre
sur la deuxième
partie.
Question.
Oui.
Oui, tout à fait. Alors la question, c'était comment
s'y mettre concrètement.
Comment s'y met concrètement? Ça dépend un petit peu de son affinité. Si on a plutôt envie de s'y mettre en rencontrant des gens, je pense que le plus simple, c'est de venir participer à des rencontres qu'organisent les groupes locaux ou à des cartoparties. Donc pour ça, je pense qu'un bon point d'entrée, c'est le site de notre association, donc openstreetmap.fr, où on a une rubrique événements qui liste les réunions des groupes locaux. Donc il y a des groupes locaux qui s'organisent, qui se réunissent par exemple tous les mois pour faire le point un petit peu sur l'avancée de leurs projets respectifs. Et puis des cartoparties qui s'organisent, donc qui peuvent être, comme l'a dit Jean-Christophe, ou bien des cartoparties thématiques, ou bien des cartoparties généralistes, mais limitées à un territoire, par exemple. Donc ça, c'est un bon moyen de se lancer en rencontrant d'autres contributeurs qui vont pouvoir vous tenir la main, vous expliquer un petit peu comment ça marche et vous accompagner pour faire vos premiers pas. Et puis, si vous êtes plus aventureux, je pense qu'il faut commencer par aller sur le site openstreetmap.org, cliquer sur « Modifier », puis regarder un peu comment ça marche. On a un wiki qui est notre bible, notre grosse source d'information qui explique un petit peu comment fonctionne le projet, comment fonctionne la base de données, et qui est vraiment la référence. et voilà, commencer à cliquer un peu partout et voir ce qu'on arrive à faire. C'est pas très difficile. Le plus difficile, c'est de se lancer.
Il y a autre chose qui est organisée, qui sont des mapathons, où là, c'est plus orienté humanitaire, mais ça se passe en général en soirée, et ça permet de découvrir comment compléter la carte dans un endroit souvent très très lointain à l'aide d'images satellites. Donc on va cartographier les bâtiments, par exemple, et rien que le fait de compter les bâtiments permet de savoir quelle est la population approximative dans une zone, qui va permettre, par exemple, de savoir où positionner un dispensaire, ce genre de choses.
D'accord. Jean-Christophe, en deux mots, parce que le temps file, un petit mot peut-être sur la formation et plus précisément peut-être, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur de nouveaux programmes dans les lycées, notamment à partir de la seconde, parce qu'il y a OpenStreetMap qui est dans les nouveaux programmes.
Alors effectivement, à partir de la rentrée qui vient, dans le nouveau référentiel de compétences attendues dans les programmes de seconde, il y a la compétence savoir contribuer à OpenStreetMap. Alors c'est une formidable opportunité pour la communauté OpenStreetMap parce que ça veut dire une masse gigantesque de contributeurs potentiels. C'est aussi une difficulté à gérer parce que ça veut dire qu'il va falloir accompagner, former les enseignants qui vont devoir transmettre cette compétence. Voilà, je pense que c'est vraiment un enjeu dans les années qui viennent de mettre en place des formations d'initiation à OpenStreetMap pour faire monter en compétence les contributeurs et surtout ceux qui accompagnent les contributeurs pour avoir des contributions de qualité.
Alors merci Jean-Christophe, donc je vais laisser un dernier mot, mais alors 30 secondes pour expliquer ce qu'est State of the Map France, et où ça se passe ?
State of the Map, c'est une conférence annuelle. Alors, il y a une conférence internationale qui est organisée, et depuis plusieurs années, on organise aussi un State of the Map France. Donc, c'est la conférence annuelle d'OpenStreetMap France. Et cette année, elle se déroule à Montpellier, du 14 au 16 juin, donc
ce week-end.
Voilà, on est en train de terminer nos présentations à l'arrache, comme d'habitude. Et en général, on a plus de 200 personnes, on a 70 conférences. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
D'accord. Bah, écoute, on encourage toutes les personnes à aller à cette édition ou à la prochaine ou aux cartes parties locales qui sont organisées. Et pour répondre à la dernière question de PG, donc sur le salon, travaillez-vous avec les scolaires ou autres publics pour les sensibiliser ? Je pense qu'avec ce programme de seconde et du lycée, vous allez avoir de plus en plus de demandes, donc vous y répondrez en fonction évidemment des moyens.
Et ça a déjà été fait. Il y a déjà eu des choses de faites. Il y a eu des choses de faites récemment, par exemple à côté de Metz.
Bah écoutez, super, donc c'était vraiment une première émission, vous avez compris en l'écoutant qu'on abordait plein de sujets, que chacun des sujets, on pourrait en parler pendant 30 minutes, une heure, donc je remercie les personnes qui sont intervenues, donc Jean-Christophe Becquet au téléphone, Noémie Lehubi et Christian Kest sur place, et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée.
Alors nous allons faire une pause musicale, nous allons écouter I Need par Jazzar, et on se retrouve juste après.
Cause commune.
I Need par Jazzar, musique disponible en licence libre. Les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.fm partout dans le monde. Nous allons maintenant aborder notre dernier sujet. Nous allons aborder maintenant la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet. Eh oui, parce que Jean-Christophe Becquet, en plus de ses activités OpenStreetMap, est président de l'April. Donc, bonjour Jean-Christophe.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, je crois que dans cette la pépite libre que tu souhaites nous présenter, ce sont des films libres de la fondation Blender.
Oui, tout à fait. Alors, peut-être commencer par expliquer ce qu'est Blender. Donc, Blender est un logiciel libre de modélisation, d'animation et de rendu en 3D. Il est intéressant de se pencher quelques minutes sur son histoire. En effet, Blender était au départ un partagiciel. En anglais, on parle de shareware. C'est-à-dire qu'il était disponible gratuitement dans une version limitée et qu'il fallait payer pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Blender devient ensuite un logiciel gratuit, freeware en anglais. Et en 2002, une souscription est lancée afin de racheter les droits d'auteur de Blender pour un montant de 100 000 euros et d'en faire un logiciel libre, free software en anglais, sous licence GPL. Un article récent sur le site du projet intitulé « Blender is free software » célèbre cette liberté. L'article explique « Blender est libre pour toujours ». Cette liberté, qui rend la licence GPL si puissante, est la raison pour laquelle c'est bien plus que de l'open source. Blender connaît un développement formidable depuis 25 ans. Le 2 février 2019, le créateur de Blender, Ton Rosendahl, a reçu le prix AniHub Itwerk de la Société internationale du film d'animation, ASIFA Hollywood. Ce prix reconnaît les progrès techniques qui ont un impact significatif sur l'art ou l'industrie de l'animation. Un article de la licence professionnelle Colibre titre quand un logiciel libre reçoit enfin la reconnaissance qu'il mérite. Depuis 2007, la fondation Blender, qui pilote le développement du logiciel, héberge l'Institut Blender. Il s'agit du premier studio de production cinématographique et vidéo ludique libre. L'équipe, basée à Amsterdam, se consacre à la production de films et de jeux vidéo libres avec le logiciel Blender. L'originalité de la démarche réside dans le fait que tout le processus de création artistique, personnages, scènes, textures, est partagé sous licence libre. Aujourd'hui, la Fondation Blender a publié une dizaine d'œuvres de grande qualité. Citons quelques exemples. Le dessin animé Big Bug Bunny, qui réjouira les enfants de tout âge. Un autre court-métrage, Cosmo l'Andromate, raconte l'histoire d'un mouton dépressif sur une île déserte. Il rencontre un vendeur excentrique qui lui propose de changer de vie. Enfin, Spring, le dernier sorti, est une belle ode à la vie. Une jeune bergère affronte les esprits anciens pour permettre la venue du printemps. Le générique de fin de tous ces films affiche une licence Creative Commons by, c'est-à-dire qu'on peut les copier, les projeter dans toutes circonstances et aussi les modifier. C'est du cinéma libre.
Alors merci Jean-Christophe pour cette présentation. Blender, on en a déjà parlé un petit peu, notamment son historique que tu as rappelé donc dans l'émission du 19 mars avec Jean Pagès et Lionel Ayorge. Alors, donc j'invite les personnes qui écoutent l'émission à réécouter le podcast si elles veulent avoir plus de détails. Je suppose que la production de ces films est aussi l'occasion de montrer les capacités de Blender. Et donc je suppose, bon, c'est une question ouverte, hein, qu'il y a un nouveau film à chaque nouvelle version de Blender peut-être.
Alors effectivement, c'était un peu c'était une des motivations, en tout cas initiales, hein, c'était de produire des films d'animation pour montrer par la pratique les capacités du logiciel Blender, tester des fonctionnalités nouvelles. Donc effectivement, depuis 2007, la Fondation Blender sort environ un nouveau film tous les 2 ans. Et chaque fois, le défi, c'est de mettre en évidence les nouvelles fonctionnalités du logiciel libre Blender.
Et donc, est-ce que tu te souviens de la durée de ces films qui sont produits ?
Est-ce quoi ? C'est alors oui, ce sont des films très courts. Hein. Ce sont des courts-métrages, donc de l'ordre de la dizaine de minutes. Ce qui, du coup, rend tout à fait possible et pertinente une projection dans un événement libriste, voilà, au début ou à la fin d'une conférence ou pendant une pause. On peut proposer la projection d'un film libre de la Fondation Blender. La licence le permet et le format de l'ordre de la dizaine de minutes rend ça possible dans un grand nombre d'événements.
Alors c'est une excellente suggestion, parce que souvent dans les pauses, il n'y a rien qui est diffusé sur l'écran. Là, ça peut être l'occasion de diffuser quelque chose. Moi, j'ai vu hier, en préparant l'émission, donc le dernier né, hein, Spring, donc qui est une féerie sur la fin de l'hiver en montagne, et c'est absolument magnifique. Alors, de mémoire, ça dure 6 ou 7 minutes, donc on encourage évidemment toutes les personnes à regarder. Tous ces films sont disponibles sur le site de Blender.
Oui, tout à fait. Il y a un site sur lequel on peut retrouver les vidéos de tous les films en accès libre sous licence Creative Commons by. Pour pouvoir télécharger les matériaux qui ont servi à la production des films, c'est-à-dire les modèles 3D, les textures, les personnages, il faut souscrire un abonnement auprès de la Fondation Blender de l'ordre de la dizaine d'euros par mois. Pour pouvoir accéder donc à l'ensemble des téléchargements, ce qui montre bien que libre n'est pas gratuit et que gratuit n'est pas libre, ce sont vraiment deux notions différentes. Tous ces contenus, tous ces médias sont bien sous licence libre. Il n'en demeure pas moins que la Fondation Blender a fait le choix de rendre payant l'accès, ce qui est tout à fait possible et permis par les licences libres. Et donc voilà, c'est aussi une bonne illustration du fonctionnement des licences libres. Les films, eux, sont accessibles librement et gratuitement dans leur version intégrale et en haute résolution sur le site de la Fondation Blender.
Bah écoute, merci Jean-Christophe. Je précise que les références, y a des références sur le site de la PRIL, hein, dans la page consacrée à l'émission que tu as mise à jour tout à l'heure. Bah écoute, je te remercie pour cette chronique et on se retrouve peut-être en juillet pour la dernière chronique avant la pause.
Entendu, ça marche.
Passe une bonne journée.
Belle fin de journée, merci. Au revoir.
Alors, nous approchons de la fin de l'émission et nous allons finir par quelques annonces. On parlait tout à l'heure de collectivité et logiciel libre. Eh bien, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a co-signé notamment avec Jean-Christophe Becquet, décidément la star du jour, une tribune publiée dans Libération la semaine dernière, intitulée « Logiciel libre, il faut mettre la technologie au service des villes et des citoyens ». Et nous avons eu récemment une émission avec Pierre Lévy, qui travaille à la direction des systèmes d'information de la mairie de Paris, pour parler notamment de l'UTES, un projet libre utilisé développé par la mairie de Paris depuis les années 2000. Mon collègue est actuellement en régie, Étienne Gonu, qui s'occupe aussi d'affaires publiques à l'April, a des compétences multiples, car il interviendra donc jeudi 13 juin au Centre social et culturel Guy Toffoletti à Bagnolet, entre 19h et 21h, dans une table ronde intitulée « Le logiciel libre, une intelligence collective à grande échelle ». C'est organisé par l'Université populaire de Bagnolet. Ce week-end, alors si vous êtes à Montpellier, il y a un événement OpenStreetMap, mais si vous êtes en région parisienne, il y a un April Camp qui a lieu ce week-end, donc le samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 au local de l'April à Paris. Alors c'est quoi un April Camp? L'idée, c'est de se réunir en fait pendant 2 jours entre membres de l'association et soutien pour faire avancer des projets, lancer de nouveaux projets ou simplement se rencontrer et discuter. Donc les projets peuvent être de nature technique, ils peuvent être de nature de communication ou très variés. Par exemple, le dimanche, il y aura un atelier sur la création d'un jeu du GNU, inspiré du jeu de loi, pour en fait un jeu de sensibilisation autour d'un certain nombre de thématiques. Donc n'hésitez pas à venir, toute personne est la bienvenue, qu'elle soit membre ou pas de l'April, et quelles que soient vos compétences, vous pouvez passer quelques heures ou simplement ou même les 2 jours entièrement. Donc les références sont sur le site de l'April, donc c'est samedi 15 juin et dimanche 16 juin, le local de l'April est dans le 14e arrondissement de Paris. Vous retrouverez tous les autres événements évidemment liés au logiciel libre sur le site agendadulibre.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission, donc Jean-Christophe Becquet, Noémie Lehubi, Christian Kest, François Zahidi, aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Un grand merci également à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe notamment et avec beaucoup de soin du traitement des podcasts. Vous retrouverez sur notre site april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. La prochaine émission aura lieu donc en direct mardi 18 juin de 15h30 à 17h. Notre sujet principal sera consacré aux chatons. Ce sera la deuxième émission consacrée aux chatons. Donc je vais rappeler que le chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Je précise que je triche, je l'ai écrit pour être sûr de ne pas me tromper. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.